France Culture.
Vous avez vu dans une loge ?
Ouais.
France Culture.
Tranquille.
Je disais qu'on allait peut-être.
Une loge.
Parce que.
Une loge.
Le plateau, ça travaille.
Le book club.
Bonjour.
Marie.
Est-ce que vous vous souvenez, nous nous étions rencontrés pour parler de Samuel Beckett à la radio ?
Oui, je comprends.
C'est vrai ? Vous vous en souvenez ? C'est génial, ça.
Dans la bibliothèque
mais
d'Alain Françon.
Est-ce qu'on se promènerait pas un peu dans le théâtre ?
Le petit, le grand ?
Je sais pas. Là, on nous disait que ça travaillait un peu au plateau.
Au pied,
ouais. Ouais.
Marie,
je sais pas. Je peux poser mon sac. Qu'on entende un tout petit peu, quoi.
Ouais, ouais.
Exactement entre deux mises en scène, exactement entre Samuel Beckett et Claude Simon, c'est exactement à cet endroit, au Théâtre du Petit Saint-Martin à Paris, que nous avons retrouvé Alain Françon. En 1971, il monte avec des camarades le Théâtre Éclaté. C'est là qu'il apprend tout, dit-il, et c'est aussi là qu'un jour, les mêmes camarades le désignent pour diriger leur jeu, comme on dit, pour être celui qui regarde, qui écoute, qui entend. Travailler à l'oreille jusqu'à ce que quelque chose du rythme vivant d'un texte rejoigne une forme, laquelle forme est travaillée par l'histoire des formes et permet, presque dans un second temps seulement, de faire circuler du sens. Ce serait comme ça, en résumant, qu'Alain Françon avance. Dans le studio de danse qui jouxte la loge où nous le rejoignons, il y a un très grand portrait du mime Marceau. Silence. Et sur le plateau de théâtre que nous arpentons, en décrivant une bibliothèque imaginaire, il y a un leurre de décor. Entre le silence et le leurre, il y a un engagement possible pour le langage, un engagement radical et émancipateur, celui qui permet de prendre la parole au milieu de la masse. De texte choisi en texte choisi, Alain Françon nous raconte ça, et c'est bouleversant, on l'écoute.
Et donc ici, on est dans le Petit Saint-Martin,
ouais.
Qui n'est pas le théâtre de la Porte Saint-Martin, ni le théâtre des Bouffes à côté.
Et là, il y a le leurre du décor de Olé Beaujour qu'on répète avec Dominique Valadier.
C'est quoi un leurre de décor ?
Ben, c'est normalement, le décor, c'est un énorme truc. Et là, bon, on a foutu un truc avec un tissu comme ça pour faire le trou. Où normalement il y a juste sa tête qui dépasse, quoi. Ce que Beckett appelle un mamelon.
Parce que ça fait
donc
partie
c'est
des.
C'est la simulation de ça, quoi, en gros.
Ça fait partie
pour
des.
Pour pouvoir répéter, quoi.
Ça fait partie des notes de Beckett ou des didascalies de Beckett, ce grand mamelon.
Ah, oui,
ouais,
oui,
il
oui,
est
oui.
Très précis.
Ah, oui, oui, oui.
Et ah, c'est, oui. C'est qui les trois personnes?
En fait, c'est comme ça, mais nous, avec Jacques, on a fait tout un décor. Il y a d'autres. Il y a comme un énorme truc comme ça, comme un rocher, puis il y en a plein d'autres sur tout le plateau, et c'est comme si c'était un. Je sais pas quoi, un désert post-atomique, on pourrait dire.
Rien que ça.
Pourquoi pas. Enfin, en tout cas, un endroit, un no man's land un peu irradié, quoi. Voilà.
Ça fait combien de temps que là vous avez commencé le travail
à
de
répéter,
répétition
là.
Ouais.
Ah, là, c'est la troisième semaine, je crois.
Ah oui.
Et je crois qu'on en a 5 ou 6 au total, 6, je crois.
Ok. C'est un moment que vous aimez bien ?
Ça dépend. Ça dépend. Non, là, ça va plutôt bien, oui. Ça va. Ça va, on a fait la totalité, là, tout à l'heure.
La totalité du texte,
ouais,
de Beckett.
Du texte.
Et vous vous mettez où, ici, dans la salle, quand vous faites
on
répéter ?
Va.
Tout près ?
Oui.
Ah oui, c'est très, 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 très.
Ouais.
Ok. Et vous vous mettez pas là, par contre, le soir de représentation ? Si,
non.
Ça peut ?
Ah non,
non.
Non. Non, moi je fuis, là.
Ah ouais ? Oui. Vous n'êtes jamais présent ?
Si, mais il faut que je trouve une place. Là. Trouver sa place, c'est compliqué. Dès qu'il y a représentation, le metteur en scène, pour trouver sa place, c'est
ah ouais.
Délicat. Ouais.
Et ça n'a pas bougé avec le temps ? Parce que ça fait quand même un moment que vous faites ce métier-là, Alain Françon.
Avant, j'allais dans la salle,
ouais.
Mais je faisais des scandales, donc c'est mieux que j'y aille pas.
Genre quoi ?
Bah, si quelqu'un s'endormait à côté de moi, là, je commençais à le bousculer.
C'est drôle comme scandale en même temps.
Non, mais il y a des fois, on se trompe. Par exemple, je me rappelle un jeune homme, je ne sais plus où c'était, dans quelle salle, peut-être un théâtre ouvert au Jardin d'Hiver, et... Je l'ai engueulé pendant la représentation et à la fin il m'a dit mais non, mais j'ai expliqué à ma copine parce que moi je l'ai déjà vu et je trouve ça tellement formidable que voilà, je lui ai expliqué la suite. Je me suis excusé.
Donc là on est face à ce leurre de décor dont j'apprends que c'est simplement pour en gros vivre au plateau avec les masques qui seront ensuite officiellement déployés. Cette chaise-là, c'est un leurre de chaise.
Non, ça, ça appartient au spectacle qui se joue à 7h
en ce moment. Ah, ok, ok, ok.
Mais bon, comme il ne nous gêne pas pour le moment, on le laisse comme ça. Ça évite une manipulation entre les,
supplémentaire.
Entre les deux choses.
Il y a un couteau, d'ailleurs, au sol.
Ah oui,
Bref, ok.
Mais je ne sais pas. J'ai pas eu le temps de le voir, le spectacle.
D'accord.
Et il finit samedi. Il faut que je vienne le voir avant samedi, d'ailleurs.
Parce qu'en ce moment, vous êtes entre plusieurs théâtres, Alain Françon.
Oui.
Avec une particulièrement dense actualité. Vous êtes entre Claude Simon et Samuel Beckett.
Oui.
C'est quand même deux compagnons denses, eux aussi.
Oui, plutôt.
C'est agréable comme rentrée pour vous ?
Sur Claude Simon, oui, parce que je m'y attends. Enfin, je trouvais que le spectacle, j'avais envie de le faire. Mais j'étais très, très inquiet sur quelle pouvait être la réception de cette pièce. Et puis, je trouvais que le directeur de Les Bouffes Parisiens avait pris un énorme risque, quoi. Donc, je ne me sentais pas très bien jusqu'à la première. Mais enfin, j'étais très content du travail avec les acteurs. Hein. C'était formidable. C'est une distribution magnifique. Mais bon, compliqué, tout ça. C'était dur à faire, d'abord. Et puis, c'était très risqué. Et donc, ça se passe bien. Et la réception, c'est bien. Et voilà, c'est presque plein. Il y a du monde, donc ça va.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ça va. Et les critiques sont... Moi, je les lis pas toutes, mais celles que j'ai lues, bon, bah oui, c'est bien.
Bon, j'espère qu'on vous fait passer les bonnes.
Ah bah oui, bien sûr.
Agréablement. Comment vous travaillez les déplacements de vos comédiens et comédiennes en plateau ? Vous venez sur le plateau ?
Non, jamais. Non. En général, d'ailleurs, il y a une ligne qui est tracée, qui est la ligne d'avant-scène, et c'est une ligne que je franchis jamais.
Ah oui, ah, donc vraiment...
Ou alors c'est exception, quoi, mais non.
Parce que c'est leur domaine.
Bah oui. Oui, je pense. Oui. Puis il vaut mieux être à la place du spectateur.
Mm-hmm.
Finalement, c'est comme si j'étais le premier spectateur de ce qu'on est en train de faire, quoi.
Mm-hmm.
Donc.
J'allais vous faire une proposition de franchissement total de cette ligne en imaginant que ce bout de plateau qui n'est pas du tout occupé, ça pourrait être votre bibliothèque virtuelle qu'on pourrait visiter.
Bon,
on y va. Ouais. Franchissez-la pour l'occasion.
Ouais.
D'autant qu'elle n'est pas tracée aujourd'hui. Donc on ne va rien déranger des faux décors. Donc nous voilà arrivés chez vous. Merci beaucoup de nous accueillir, Alain Françon, ça fait plaisir. donc dans l'entrée, je sais pas, ça doit être sympa.
Dans l'entrée, y a un hall, puis c'est tout de suite le salon.
Ok.
Et de ce côté-là, il y a un long couloir.
À gauche.
Et tout l'appartement. Ce couloir dessert toutes les pièces.
Et c'est dans ce couloir qu'on trouve les livres ?
Non, dans le salon, il y a un bloc, deux blocs.
Ok. Donc on est dans le salon.
Ouais.
Et là, il y a des blocs de livres partout.
Ici, là, il y en a un.
À gauche.
Ici, là. Et puis là, c'est le couloir. Et autour du couloir, il y en a encore des livres comme ça.
Par conséquent, il y a beaucoup de livres chez vous.
C'est pas ma seule bibliothèque, hein, c'est la bibliothèque de Dominique aussi,
ouais.
Valadier. Donc, ouais, il y a beaucoup de livres.
Beaucoup de livres.
Parce qu'après, quand on continue dans le couloir, en fait, la pièce qui suit, c'est la cuisine, mais c'est une très grande cuisine. Et en face, il y a une bibliothèque aussi, quoi.
Dans la cuisine ou en face de la cuisine ?
Oui, en face de la cuisine.
Sympa.
Donc, c'est pas séparé, quoi, en fait. Donc, on peut manger en regardant les livres ou boire
voire
café
même
en regardant les livres.
Lire en mangeant.
Pas lire
ou en buvant. Et est-ce que cette bibliothèque que je vois donc là, qui est très belle, est-ce qu'elle est rangée ?
Plus
est-ce
ou
qu'il
moins,
y a des zones
moins
géographiques ?
Non, je suis un peu paresseux là-dessus, c'est-à-dire que... En fait, j'aime bien classer les livres par couleur.
Ok.
Ouais, donc par exemple, Verdier, c'est jaune, donc tous les jaunes, ils sont côte à côte.
Très beau jaune, pareil. Et Verdier, c'est où, là ?
Oh, c'est plutôt là.
Verdier à gauche.
Ouais. Il y a toute la collection des philosophes, Horkheimer, Adorno, c'est rouge. Je ne sais plus quelle édition c'est, ça, en fait.
Chez...
En tout cas, voilà, ça marche un peu par couleur.
Et c'est où, les philosophes ?
Quand on est là, c'est ici.
À droite.
Ouais, à droite, ouais.
Et alors,
mais c'est pas que les philosophes, il y a ça, mais c'est parce que c'est rouge, et puis à côté, c'est des blancs.
Ok.
Puis il y a beaucoup, parce que, évidemment, j'ai fait des études d'histoire de l'art, en fait, et donc il y a beaucoup de bouquins d'art.
Où
un
ça
peu partout.
Un peu partout.
Ouais, mais parce que, En fait, je reconnais plus la peinture que la littérature.
Mais on y viendra, parce que vous avez choisi un texte de Deleuze dans vos cinq choix étapes qui concernent la peinture, et notamment Bacon. Si on allait dans votre cuisine, et qu'on se mettait dans votre cuisine, et que vous aviez préparé pour nous,
c'est le soir. Dans les rayons, il y a beaucoup de théâtre, là.
Et des textes théoriques, ou plutôt...
Des textes théoriques, et puis surtout, il y a presque tout l'Arche. Non, peut-être pas tout, mais enfin beaucoup, quoi.
Donc les éditions de l'Arche, pour nos éditeurs.
Il y a tous les Bond, tous les...
Édouard Bond.
Thomas Bernard, tous les Vinavert, tout ce que j'ai un peu travaillé, quoi, beaucoup.
Un peu beaucoup.
Un peu beaucoup.
Et est-ce que vous avez aussi des textes théoriques sur le théâtre?
Oui. Oui, bien, il y a les textes de Michel, il y a les textes de Bond qui sont aussi théoriques. Oui, puis
Michel Vinavert.
Oui.
Édouard Bond, et non pas James. Édouard Bond qui avait une bibliothèque incroyable aussi avec sa femme.
Là, j'ai reçu un message aujourd'hui.
Oui. Alors, pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours pour dire qu'ils avaient en effet.
À Montpellier.
Ils avaient trouvé un endroit pour faire l'inventaire de cette bibliothèque.
Moi, c'est l'arrivée des livres à Montpellier.
Ah non, bah vous êtes plus à l'heure que moi.
Au CNRS de Montpellier.
Ah bah vous êtes... Et c'est une meilleure nouvelle que celle que j'avais.
Mais je ne sais pas qui me l'a envoyé.
Ah. Mais en tout cas, en effet, c'est une bibliothèque très importante.
Parce qu'en même temps, il y a une photo. Je pense que c'est rue... Je ne sais pas quelle rue à Montpellier. Et on me dit, ça, c'est Antigone et Tirésias à Montpellier qui reçoivent la bibliothèque d'Edouard Bond.
C'est
beau. Et d'Elisabeth.
Oui, parce qu'avec sa femme, ils avaient une bibliothèque conséquente.
Ouais.
Et en effet, il est... Savoir ce qu'il y a bien.
On y est allé souvent avec Michel Vitoz. Ben oui, parce que chaque fois qu'on montait une pièce, quand Michel faisait la traduction, on allait voir Edouard chez lui, avec Elisabeth, et on restait souvent.
Et c'était une grande
formidable.
Bibliothèque, effectivement.
Ah, ouais. Ah oui, oui. Oui.
Pourquoi c'était formidable d'aller voir Edouard Bond?
Parce que c'est des journées. Je sais pas, non, je me rappelle beaucoup.
Ouais.
Parce que ça m'a toujours aidé, par exemple, dans le travail de mise en scène. Ce qu'on faisait là, c'était...
Ce que vous faisiez avec Edouard Bond pendant ces journées-là.
En lui demandant pourquoi tel mot, tout ça. Enfin, si l'expression était usitée, pas usitée, etc.
Ouais.
Et il en parlait tellement que, finalement, quand je revenais, j'avais fait la moitié de la mise en scène. Quoi.
Bon ah, boulot, quoi.
Ah ouais. Non, c'était... Des fois, on rencontre des hommes extraordinaires. Celui-là, c'en était un, celui-là.
Vous avez de la chance. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans votre appartement virtuel dans lequel on doit trouver des livres?
Après, il y a...
Vous y prenez goût à être sur le plateau, Alain François, attention.
Oui, bon, il y a une première chambre. Il y a une première chambre.
Ouais.
Et dans celle-là, il y a encore des livres.
Ok.
Bon, je ne sais pas, il y a un rayon spécial Ibsen. C'est tout Lachenay. Je ne sais plus, un jour, je m'étais acheté ça. C'est un truc assez rare, d'ailleurs.
Ouais.
Donc, il y a tous les bouquins d'Ibsen, toutes les pièces. Puis, de ce côté-là, il y a une toute petite bibliothèque à côté du lit. Et là, il y a tout. C'est tous des livres d'art, en gros.
Vous l'utilisez, votre bibliothèque?
Oui.
C'est un outil de travail réel?
Oui. Mais des fois, comme je ne suis pas... C'est pas bien classé, des fois, je peux mettre une heure pour retrouver un livre, parce que je sais à peu près où il est, mais pas vraiment, quoi.
Mais au passage, vous cueillez quelques fleurs, normalement.
Oui,
c'est ça qui est assez sympa.
Oui, ça qui est bien, oui.
Ouais.
Je retrouve des trucs que je ne m'en plus que c'était là, quoi.
Ouais. Et vous les ouvrez avec plaisir. Est-ce qu'on a fait le tour de cette bibliothèque imaginée
après,
sur le plateau?
Une autre chambre qui est un bureau. Voilà, c'est plutôt les trucs sur lesquels je travaille, qui sont là. Donc là, pour le moment, il y a une pièce de Thomas Bernard que j'aimerais bien monter.
Ouais.
Voilà. Il y a tous les romans de Claude Simon. Il y a évidemment Où les beaux jours.
De Beckett.
Et puis, il y a deux ou trois vidéos des spectacles de la Comédie française, du Mariage de Figaro.
Des captations, vous voulez dire des DVD, quoi?
Ouais, DVD. Enfin, la mise en scène de Rosner, tout ça. J'essaye de regarder ce qui se faisait, quoi, pour voir comment ils prenaient la chose, quoi.
C'est une bonne façon de le dire. Bon, on sort de chez vous.
Et bah,
on retrouve, on retrouve le théâtre, le petit Saint-Martin, et on va aller dans la loge.
Ouais.
C'est une loge, c'est à vous, cette loge? Enfin, je veux dire, c'est une loge...
Ça, c'est la loge de l'acteur qui joue
en ce moment.
Spectacle à 5h.
Et vous disiez que dans la salle de théâtre, c'était pas bien évident pour un metteur en scène de trouver sa place une fois les représentations commencées. Ouais. Et les loges de théâtre, que vous avez quand même pas mal fréquentées, c'est un endroit que vous aimez?
Non.
Ouais, mais je comprends, je crois. Je comprends pourquoi.
Okay. Non, parce que là aussi, c'est du privé d'acteur, presque, les loges.
Ouais. Donc, mais c'est vous, alors, votre endroit?
Ça m'arrive de faire des notes, donc si on ne sait pas où se mettre, on se met dans les loges.
Alors, des notes, pour les personnes qui nous écoutent, c'est des retours sur le travail.
Ouais. Voilà. C'est dans le dernier métro, le metteur en scène, il est en sous-sol, et il écoute la représentation dans une colonne, je ne sais pas ce que c'est comme colonne.
Bonne méthode.
Ouais, c'est un endroit rêvé pour ça.
Comme ça, on est tout seul
et on écoute. Mmh. Ah bah ouais.
D'ailleurs, en parlant d'écoute, on a un petit ronronnement. De quoi? De ça, non?
Là, il y a le bruit.
Ça va être hein?
Sur le plateau, on n'entendait rien.
Oh, on était bien au plateau?
Ah oui, c'est
ouais, le son était bien.
Ouais, au plateau, ouais.
Bah, on va au plateau. Ouais. Mais prenons vos livres en revanche.
Ah, bah ouais.
Ouais.
Culture. Le book club.
Vous avez dit quoi? Vous avez dit je connais mieux la peinture que le théâtre.
Ouais.
C'est vrai?
Ben oui.
Dans la bibliothèque d'Alain Françon.
Le milieu d'où je viens, il n'y avait pas de livres. Et donc, quand j'ai fini les études secondaires, j'ai décidé de faire histoire de l'art pour en savoir autant que la bourgeoisie pouvait en savoir. Mmh. Quoi. Donc c'est une manière de prendre une revanche, ou je sais pas quoi. Donc je me suis d'abord jeté là-dedans. Et donc les livres, c'est venu plus tard.
Oui, parce qu'au final, la revanche sur la bourgeoisie qui avait de la connaissance, ou en cette connaissance, vous auriez aussi pu décider que vous auriez une connaissance, je sais pas, littéraire ou géopolitique. Oui, c'est un choix particulier d'aller vers l'histoire de l'art.
Oui, mais enfin, je sais pas, pour moi, c'était plus...
Chic.
Plus représentatif, je sais pas pourquoi en fait.
Non, mais
j'avais toujours dans la tête la phrase de un psychanalyste italien qui s'appelait Bassaglia, qui disait ce qu'il faut, c'est appartenir à la masse et prendre la parole. Mm-hmm. Donc j'appartenais à la masse, j'ai pris la parole.
Mm-hmm. C'est un beau projet. Alors, on vous a demandé, comme à chacun de nos invités, de choisir ce qu'on appelle des textes étapes, Alain Françon. Vous commencez par rester dans les textes au milieu desquels vous baignez depuis quelque temps, Alain Françon, puisque vous commencez par Claude Simon. Vous choisissez L'Herbe, c'est un roman paru en 1958, qui n'est pas sans lien avec la pièce que vous avez mis en scène qui s'appelle La Séparation. Peut-être un mot sur Tout à l'heure, vous avez dit, quand on visitait votre bibliothèque virtuelle sur le plateau de théâtre, que vous aviez dans votre bureau tous les romans de Simon. Comment vous arrivez à l'œuvre de Claude Simon ?
Oui, il y a très très longtemps, j'avais lu La Route des Flandres, Le Vent, et puis voilà. Et simplement, c'est...
Enfin, et puis voilà, c'est quand même pas des textes...
Non, mais j'étais pas allé plus loin, j'aurais pu continuer, ou... Mais bon, voilà, je m'étais... Oui, ça faisait partie des livres, surtout La Route des Flandres, que je trouvais magnifique. Mais enfin bon, j'étais pas allé plus loin. Et puis, quand j'ai travaillé avec Peter Handke, j'ai été invité par une dame qui s'appelle Mireille Kahl-Gruber, qui a un colloque de sa série Z pour parler de Peter. Et ce jour-là, comme elle est l'ayant droit moral de toute l'œuvre de Claude Simon, on en a parlé. Elle m'a dit qu'elle avait une pièce, qu'elle voulait me la faire lire, etc. Parce qu'elle avait vu les mises en scène que j'avais fait des pièces de Peter. Et puis voilà. Et donc, évidemment, quand j'ai eu la pièce en main, qu'on a décidé de la faire, alors je me suis mis à essayer de tout relire, quoi. Enfin, j'ai pas tout à fait tout relu, mais j'en ai lu pas mal. Mais chaque fois, j'essaye de faire ça. Hein. Quand j'ai monté Botostrauss, j'ai essayé de tout relire ses romans. Quand j'ai monté les pièces de Peter Handke, j'ai fait pareil. Chaque fois, j'essaye, parce que sinon, j'ai pas envie de rentrer dans une pièce comme un touriste, quoi.
Qu'est-ce qui vous fait choisir L'herbe de Claude Simon ?
Quand j'ai relu à peu près, pas la totalité, mais L'herbe, ça m'a paru être, le roman exemplaire de son œuvre, quoi. Enfin, sûrement La Route des Flandres aussi, mais L'herbe en plus, il y a toute l'histoire un peu familiale qui est à l'intérieur, et donc la sienne, quoi. En fait, c'est quelqu'un qui, dans tous les romans, d'une manière inlassable, resitue du vécu dans la fiction, quoi. Donc, c'est light. L'herbe, c'est particulièrement passionnant de ça, quoi.
On vous écoute pour un extrait ?
Ouais, je vais essayer. À travers les arbres, on pouvait encore voir la maison sur le haut de la colline, et sur la gauche, la fenêtre au volet tiré derrière laquelle la vieille femme était en train de mourir. Immobile dans son lit solitaire, le drap tiré jusqu'au menton, s'abaissant et se relevant, au rythme régulier de ce râle continu, paisible et formidable qui s'échappait d'elle, semblait la respiration monstrueuse de quelque géant, de quelque créature mythologique et facétieuse, qui aurait élu domicile dans ce corps débile d'agonisante pour faire entendre, comme les trompettes du jugement dernier, ce lent et interminable allaitement de forge, en train de mourir, occupé à mourir, concentré, solitaire, hautaine et terrible, avec application sur l'action de mourir, dans la pénombre de la chambre, où la poudroyante lumière de l'été ne pénétrait que par la fente entre les deux volets rabattus, un thé dont la branche supérieure en forme de mince triangle renversé correspondait à l'intervalle entre le haut des volets et l'encadrement de la fenêtre, et qui se déplaçait lentement de droite à gauche, distendu, trapu vers midi, puis de nouveau étiré en diagonale entre le matin et le soir, comme l'initiale même du mot « temps », une lettre impalpable et têtue se traînant dans l'odeur moribonde, le fade et moribond parfum en suspension, celui de l'eau de Cologne bon marché, dont la garde l'inondait, et cette insaisissable, désuète et cendreuse odeur de bouquet flétri qui semble flotter en permanence dans les chambres des vieilles dames, autour des miroirs où se reflètent leurs visages usés, comme l'exhalaison discrète, fragile et un peu rance des jours fanés. Mais ce qui est beau, c'est qu'il y a évidemment l'histoire de sa tante, la tante Mie, mais en plus, il y a ce qui est fondamental chez lui. Tout à coup, il quitte la narration pour passer à la description. Quoi. Et alors, l'histoire du thé de lumière, c'est sublime. Quoi.
Le thé du temps.
Ouais.
Enfin, vous dites qu'il quitte la narration pour aller vers la description, mais pour aller ailleurs. C'est-à-dire pour aller encore à un autre étage qui
Bien
est.
Sûr.
Une quasi-idée théorique, en fait.
Oui, mais il a théorisé ça, enfin, comme si dans son écriture, c'est la description qui est l'essentiel et qui est le politique, entre guillemets, entre plus. C'est...
Comment ça se retrouve dans la pièce, dans la séparation? Ça se traduit comment? Et puis aussi, on dit que la séparation est liée à l'herbe.
Oui, mais par exemple, oui, parce que enfin, il s'est toujours défendu de dire que c'était une adaptation. Mm-hmm. Donc pour lui, c'est un nouveau, c'est un nouveau support. Enfin, c'est autre chose, quoi. Mais par exemple, l'histoire du thé, là, dans le premier quart d'heure de la pièce, le personnage du fils, Georges, c'est devenu une réplique. Donc c'est vrai que c'est pas simple pour l'acteur de se coltiner tous les soirs la description, quoi. Mais c'est formidable.
La description du thé lumineux qui devient le thé, le grand thé du temps, quoi.
C'est...
On passe à un deuxième texte. Vous voulez...
Je ne sais pas, je vais prendre Peter Hank.
Ouais. L'histoire du crayon. C'est un texte de 1982, début des années 80, et traduit en français par Georges Arthur Goldschmidt.
Oui. J'ai choisi le passage, là, parce que souvent, dans les spectacles, enfin, en tout cas, disons, dans les mises en scène que je fais, j'ai souvent entendu, par exemple, sur Marivaux, « Ah oui, non, ça va, les acteurs, c'est formidable, ils sont bien dirigés, etc. » Mais bon... C'est classique, quoi. Il y en a marre du classique et tout ça, quoi.
Au sens visuel du terme.
Je sais pas à quel sens ça se dit. C'est toujours... Non, c'est même plus loin que ça. C'est comme si classique, c'était ringard, en fait. Ou un truc comme ça. Non,
mais depuis j'exagère. Toujours.
Oui, depuis toujours. Mais moi, je trouve que... J'ai toujours envie de réagir violemment sur ces trucs-là, mais... Et donc là, c'est par exemple le texte que j'ai choisi de Peters dans l'histoire du crayon, qui est une série de notes comme ça, qu'il prenait en même temps qu'il écrivait une pièce. D'ailleurs, il a écrit l'histoire du crayon en même temps que Par les villages. Et c'est beau parce que c'est pour moi une définition magnifique du mot classique.
Mais l'histoire du crayon, c'est des notes de travail quand il est en train d'écrire Par les villages.
Absolument.
Donc tout s'y réfère ou il parle plus généralement de son écriture théâtrale?
Plus généralement, non, c'est pas seulement sur le théâtre. Non,
l'histoire du crayon, ça fait référence à l'écriture, quoi.
Oui.
Vous avez un lien particulier avec Par les villages? Pas spécialement.
si, j'aime bien. Non, c'est parce que quand on a joué la pièce de Peter qui s'appelait, je sais plus, le titre était très long... Les innocents, moi et l'inconnu, au bord de la route départementale. Enfin, je crois, nous, on appelait ça la départementale pour aller plus vite. Quand on a joué ça, il y a eu le Covid. Donc, en fait, c'est un spectacle énorme et on l'a joué 9 fois, je crois, au total. Mais par contre, à la colline, Wajdi Mouahan m'avait demandé, parce qu'ils avaient instauré pendant le Covid, les gens pouvaient téléphoner et puis on leur lisait un texte ou je sais pas quoi. Et donc, moi, j'ai eu plein d'interlocuteurs à qui j'ai lu des passages de Par les villages.
Trop beau, non?
Oui, c'est bien.
Et vous en parliez avec eux ou c'était ciao et vous raccrochez?
Non, des fois les gens... Non, même j'ai rencontré quelqu'un, mais beaucoup plus tard, après une représentation, qui m'a dit, je vous connais pas, mais je vous ai entendu parce que vous m'aviez lu un passage de Par les villages.
Ouais. Donc on revient à l'histoire de crayon et on revient à l'idée que ça vous sert à parler du terme classique.
Oui.
À laquelle vous auriez bien aimé répondre violemment à chaque fois qu'il a été écrit à propos de votre travail.
Et classique ne voudrait pas dire « je puise dans la tradition », mais exclusivement et entièrement en moi. Je puise dans mon esprit le plus clair et dans mon cœur le plus brûlant. Dans ma vie qui revendique d'être le début de tout. Chacune de mes phrases sait alors pourtant qu'elle est issue d'une tradition vieille de 3000 ans et que, pas une fois, elle ne doit faire comme si elle ne venait que de mon siècle et de mon milieu. Le classique, par opposition au naturaliste, est le naturel, ce qui est selon la loi. Et ce classique, ou le besoin que j'en ai, naît en moi de la manière suivante. Quelque chose qui m'a bouleversé doit m'être dit de manière bouleversante. Mais je ne dispose pas de la forme voulue. Je ne fais que bafouiller. Sinon, d'ailleurs, cela ne m'aurait pas bouleversé. En même temps, il est vrai, des quantités de formules me font signe. les répétitions bafouillantes du naturalisme, les faux fuyants du fragment romantique, la rengaine du néoclassicisme ou bien tout bonnement le silence, les différentes formes de trahison. Ce bouleversement, surtout quand il se reproduit, je ne veux pas le trahir, pas même en le taisant. Aussi vais-je, lecteur, chercher conseil dans l'histoire des formes, et j'en reviens à ce qu'on sait de leur début, quand enfin j'arrive à formuler, par moi-même, je me laisse guider, sans y livrer les adopter par ces formes. Le classique vient chez moi du besoin de la forme qui rende sans cesse répétable la sauvagerie originelle, qui donc dit qu'il n'y a pas d'aventure. La voie qui mène de ce qui est sauvage, originel et informel, à ce qui est sauvage mais qui a une forme, sauvage et répétable, c'est une voie aventureuse de l'enfance de l'esprit à l'esprit d'enfance.
C'est sûr que si vous répondez ça aux personnes qui vous écrivent que vous êtes trop classique, alors tout va bien. Passionnant, cette définition du classique.
Oui, je trouve. Et c'est lié aussi, évidemment, à l'histoire des formes. Ça. Mm. Donc, c'est important. Ouais.
C'est lié à l'histoire des formes, mais c'est aussi lié, si je comprends bien, à l'idée de...
Au bouleversement.
Oui, trouver une manière de traduire son premier bouleversement,
oui.
Considérant que ma vie est le début de tout, oui. Et que finalement aussi la manière dont il est percuté par un verbe est le début de tout,
oui.
Et comment on rend compte de ça.
Et quel guide peut nous aider à le formuler, quoi.
Vous lisez cet extrait de Peter Hanke parce qu'il y a quelque chose de similaire dans la manière dont vous travaillez.
Oui, je pense, oui. Oui.
Ça veut dire que tout part du texte et de ce que ça vous fait ?
Oui. Mais aussi, vraiment, sur toutes les strates que je peux trouver à l'intérieur du texte qui me correspondent sûrement, mais qui peuvent correspondre à la production de l'auteur, c'est-à-dire conscient et inconscient confondus. Mmh. Voilà.
Alors, votre troisième choix, Alain Françon, on est en train de parler d'être capable de lire la production consciente et inconsciente mêlée, et la transition est idéale. Non, parce que vous avez choisi un texte de Cynthia Fleury qui est à la fois philosophe mais aussi psychanalyste. C'est un texte assez récent, 2020, Sigil amer, guérir du ressentiment. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous l'avez choisi ?
Pourquoi j'ai choisi ? J'ai pas trop envie de parler de ça, mais c'est parce que j'ai été à... agressé violemment et je pourrais très bien ne pas être là, mais j'y suis, et quand j'étais à l'hôpital et tout ce bouquin m'a énormément aidé, et surtout après à ne pas sombrer dans le ressentiment justement, ou dans ce type de choses que je vais profondément, mais qui pouvaient m'advenir très facilement parce que j'en pouvais plus de ces histoires, enfin de cette histoire là. Et bon, ça va, tout va bien. Et donc ce livre m'a vachement aidé.
Bon, j'ai évidemment pensé à ça quand j'ai vu que vous l'aviez choisi. Aussi parce que c'est une proposition faite par Cynthia Fleury de substituer à tout acte de violence et qui plus est à des violences extrêmes comme celles que vous avez subies du verbe.
Absolument.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'à la fois, vous n'avez pas envie d'en parler, et du coup, on fait quoi ? On lit le texte ? Voilà, et puis ensuite, on voit ce qu'on peut en faire.
Le titre du chapitre, c'est « L'atteinte au langage ». L'une des manifestations les plus explicites et audibles du ressentiment demeure l'utilisation ordurière du langage. L'homme du ressentiment, après un silence coupable, qui relève souvent de la dissimulation du soumis, se lâche et vomit par son langage sa rancœur. Le langage devient vomissement et surtout possibilité de salir l'autre. Tel est bien l'enjeu, utiliser le langage non simplement comme un véhicule de la verbalisation de ses sentiments ou comme un outil de communication à l'égard d'autrui, mais comme une puissance de frappe contre l'autre. Il faut frapper, violenter l'autre, et comme on ne peut pas le faire par la violence physique, il s'agit d'utiliser le langage comme violence, insulter, dénigrer par la parole, le délégitimer, le couvrir d'opprobre, diffamé, calomnié, injurié, le langage devient le premier territoire pour expulser ce fiel et surtout pour porter atteinte à cet autrui qu'on suppose être la cause du mal dont on se dit victime. Le langage est au service d'une désymbolisation, il n'est plus au service de l'esprit critique mais de la pulsion. S'il ne vomit pas la pulsion, il est jugé inauthentique. Or, c'est précisément l'inverse qui a lieu. Un langage qui n'a plus de puissance de symbolisation disparaît en tant que langage. Il s'assimile à la seule pulsion, incontrôlée, et perd sa capacité transfiguratrice. Il n'est plus cet outil essentiel à l'édification de la rationalité publique, elle-même garante de l'état de droit et plus globalement d'une société humaniste.
Il y a plusieurs questions qui me viennent en vous écoutant faire cette lecture, Alain Françon. Partons de ce que vous avez évoqué, de cet quand même épisode violent. Vous dites que ça vous a aidé à ne pas entrer dans le ressentiment, parce que l'une des réactions, ça aurait pu être ça.
Oui.
Et comment ça vous a aidé alors ?
C'est-à-dire que ça a été plusieurs étapes, hein. La première étape, c'est que pendant très longtemps, je me suis demandé ce que j'avais pu faire, moi, pour être la victime d'une telle attaque. Donc j'ai longtemps réfléchi, je ne trouvais pas. Je me suis même dit, tiens, dans tel film, j'ai fait un personnage qui vote Front National. Est-ce que ça... J'ai tout imaginé, quoi. Mmh. Enfin, je ne savais plus. Et en fait, ça s'est calmé quand un jour, les services de police m'ont téléphoné en me disant on a arrêté le... Voilà. Et donc après, ça s'est calmé. Mais
oui, parce
après...
que le cerveau cherche du sens.
Oui, cherche, bah oui. Mmh. Et après, quand j'étais à l'hôpital, Bon, puis il y a des gens qui viennent vous voir aussi, puis... qui parle du malheur dans lequel vous êtes, etc. Et puis, ça appelle le ressentiment, je ne sais pas, d'une certaine manière, quoi. Ça appelle pas, je ne sais pas quel est le mot, oui, ressentiment, une amertume incroyable, et pourquoi moi, et pourquoi moi, oui, pourquoi moi. Et puis, en sortant de l'hôpital, j'étais en un autre truc où, pour se reposer, et là, j'avais le livre, et tout à coup, ça m'a, je ne sais pas, je lisais ça avec... voilà, avec douceur. Enfin, ça m'a énormément aidé, ça. Voilà.
Mais peut-être parce que... Peut-être parce qu'elle propose de choisir son camp vis-à-vis du langage, non ?
Oui, 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 bien sûr. Mais il y a une autre chose qui m'a aidé, c'est en rapport avec ça, c'est-à-dire que je suis allé aux Assises, et aux Assises, je voulais absolument parler. Parce que, oui, je voulais pas dire comment ça s'était passé, parce que, évidemment, l'accusé, lui, a fait 10 versions différentes, comme quoi j'avais craché par terre, comme quoi j'avais fait ça, comme quoi j'étais avec ma femme depuis longtemps, on l'observait, enfin, histoire, quoi. Et moi, je suis allé aux Assises juste pour dire, non, voilà comment ça s'est passé. Vous marchez dans la rue, il y a quelqu'un qui passe derrière vous, qui s'en va devant, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de visage. Et tout à coup, vous dites, pourquoi il m'a bousculé, j'ai pas bien compris. Puis tout à coup, vous portez votre main au cou, et là, vous comprenez, quoi. Et donc, j'ai dit, moi, expliquez-moi quel est le sens de ça, puisque moi, quand je travaille avec des acteurs, par exemple, ben, j'ai des visages en face de moi, j'ai du langage, j'ai du texte. Et donc là, pas de visage, pas de langage, c'est bizarre. Enfin, c'est... Voilà.
Insupportable.
Donc, j'ai... Donc ça aussi, ça m'a aidé à beaucoup
mais
sortir de ça.
Mais de pouvoir poser la question, ça vous a aidé ? Pour oui. Autant, vous n'avez probablement pas eu de réponse.
Non, non, bien sûr. Et puis bon, il y a autre chose qui m'a aidé, c'est que, bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'en ai quand même fait 30 ans de psychanalyse, donc ça va.
La deuxième chose qui me venait en vous écoutant, Alain Françon, c'était la curiosité pour votre rapport... enfantin ou adolescent, au langage, enfin, le moment où ça se fonde, avant les 30 ans de psychanalyse, avant les certaines années de théâtre, vous partez comment, vous, vis-à-vis des mots, à la base ?
Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai été, comment on dit, élevé, oui, tant pis, prononce ce mot, par mes grands-parents qui tenaient un café, un bar, dans un milieu ouvrier et métallurgique et minier à Saint-Étienne, dans un quartier un peu chaud à Saint-Étienne, au quartier du Soleil. Et donc, comment dire, il n'y avait pas d'intimité ni de privé pratiquement. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours en train de faire mes devoirs sur une table de bistrot au milieu des gens qui étaient là. Donc, le langage, il me venait par eux, quoi. Mmh. C'est-à-dire que c'était pas du langage
adressé. Bien.
Oui, j'étais très observateur, quoi. En fait, c'est une situation à la fois complexe, mais en même temps assez impressionnante, parce que c'est comme si j'avais toujours été dans un espace public, presque. Donc, voilà. Et puis, mais en même temps, c'était parfois douloureux parce que c'était un endroit où, un peu chaud, où il y avait pas mal de bagarres à l'intérieur du bistrot, etc. Donc, voilà. Mmh. C'est aussi des endroits dont il faut s'en aller, parfois.
Donc, du coup, plutôt, finalement, votre manière de répondre, c'est de répondre par les mots des autres. Dans un premier temps, votre rapport aux mots, c'est les mots des autres.
Oui, parce que aussi, dans le bar, c'est un endroit où tous ces gens s'expriment. Mmh. Mais par contre, dans ces milieux-là, c'est le silence. Enfin, c'est le silence. Prendre la parole, c'est compliqué, quoi. Mmh.
On va vers votre quatrième choix. Avec la peinture.
Oui.
Donc vous rappeliez, sorti du secondaire, vous décidez, pour prendre une revanche sur la bourgeoisie, de faire histoire de l'art. D'un seul coup, vous seriez-vous aussi dépositaire d'un savoir qui, a priori, appartient pas à la classe sociale dont vous venez. Donc, grand rapport avec la peinture, à ce moment-là, fort rapport avec la peinture, et qui a toujours duré.
Oui, oui, qui dure encore maintenant, oui, oui, oui.
Vous en regardez, vous allez au musée.
Oui, mais quand même, quand je monte une pièce, tout à coup, je vais chercher dans les images, justement dans la bibliothèque, chercher quel peintre ça me fait penser, ou quelle toile ça me fait penser, etc. Bon, c'est des études qui étaient assez... je ne sais pas comment dire, dans l'histoire de l'art, il y avait un côté un peu bête. Les historiens d'art, des fois, c'est pas très... Non, mais parce qu'il fallait, une fois que vous savez combien il y a de plis à l'axistis de l'oris de Delphes, bon, c'est pas très passionnant. Ouais. Par contre, il y avait un certificat à la fin de licence qui était un certificat d'esthétique. Et donc là, j'ai eu la chance de pouvoir assister à des cours de Maldinet ou à des cours de Deleuze, puisqu'il était encore à Lyon à cette époque-là. Et donc là, par contre, c'était... Mais évidemment, nous, on était un peu bêtes. Les historiens d'art, c'était des cours qui étaient destinés aux philosophes. Et donc, on ramait un peu pour comprendre ce dont il était question.
Vous ramez, mais vous comprenez qu'il y a quelque chose pour vous, en tout cas.
Moi, il y avait deux solutions. Au cours de Maldinet, où j'écoutais... Et je pouvais pas prendre de notes, ou je prenais des notes sans écouter, quoi. J'allais le plus vite possible, quoi.
Qu'est-ce qui, d'un seul coup, vous parle autrement que l'histoire de l'art plus classique que vous avez étudié jusque-là? Quel mode de pensée?
Ah ben parce que, je sais pas, que ce soit Maldinet, surtout Maldinet, il rentre dans l'atelier du peintre et il essaye de comprendre. Et quand tout à coup il décrit, par exemple, Cézanne, revenant de voir la Sainte Victoire, et puis sa femme lui dit qu'il a les yeux rouges tellement il a vu la Sainte Victoire, et puis qu'il explique que Cézanne, en regardant la toile blanche devant lui, dit « Quoi faire, tous les clichés sont déjà là ». Donc, par exemple, bon, après, évidemment, Maldinet, il commente, mais ça, c'est passionnant. Enfin, je veux dire, c'est là que ça m'intéresse davantage, quoi, même par rapport à ce que je fais, moi.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que... Je me suis rendu compte, parce que je viens quand même d'un théâtre qui était théâtre éclaté, qui est un théâtre qui était militant. Donc on a beaucoup dit aux gens ce qu'il fallait qu'ils pensent ou ce qu'il fallait qu'ils fassent.
Ça vous fait...
Et on en est revenu, bien sûr. On ne renie pas, hein. Moi je suis très content d'avoir fait ça, j'ai tout appris là. Mais
Aujourd'hui. On en est revenu, c'est-à-dire que dans les conversations ultérieures avec les camarades dont vous parliez...
Oui, ben, on a vachement progressé. Justement, c'était un collectif, tout le monde faisait tout. Après, il y a eu un metteur en scène des acteurs. Et puis après, on s'est dit, on va arrêter d'écrire des pièces nous-mêmes. On va se mettre à l'école, on va monter l'exception à la règle de Brecht. Et puis on va voir comment c'est foutu, etc. Puis on a commencé à relire tous les écrits théoriques de Brecht. Et puis voilà, enfin, je veux dire, donc on a progressé nous-mêmes. Et puis il y avait des spectacles qu'on faisait. Les gens applaudissaient, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Moi, j'ai dit, on arrête avec ce simulacre, ça va, on va faire autre chose, quoi.
Donc vous avez choisi un cours d'un autre professeur, c'est Gilles Deleuze. C'est les cours qui sont donnés entre mars et juin 1981, dans l'édition préparée par David Lapougède aux éditions de Minuit, tout récemment paru, et ça s'appelle « Sur la peinture ». On vous écoute ?
Oui. C'est que le cliché, le tout fait, est inséparable de l'intention du peintre en tant que le peintre veut peindre quelque chose. Encore une fois, quand on est peintre, on veut peindre quelque chose. Je dirais, ce qui rend le cliché inévitable, c'est qu'il est fondamentalement intentionnel. Toute intention est intention de cliché. Toute intention vise un cliché. Or, il n'y a pas de peinture sans intention. Qu'est-ce que j'appelle intention ? Si j'essaye de donner une définition abstraite, mais en même temps simple, je dirais, c'est la différence entre une pomme et une femme. Je veux dire, Cézanne n'a pas la même intention, suivant qu'il se propose de peindre une pomme et de peindre une femme. Mondrian n'a pas la même intention quand il veut peindre un grand carré, un petit carré, voilà. C'est l'intention qui promeut déjà le cliché. Dès lors, c'est forcé que le cliché soit sur la toile avant que le peintre ait commencé. Je dirais, la forme intentionnelle est toujours en peinture figurative et narrative. Elle ne peut pas être autrement. Si bien que la tâche du peintre et l'acte de peindre, ça commence avec la lutte contre la forme intentionnelle. S'il y avait une dialectique dans la peinture, ça me semblerait celle-ci. Je ne peux pas réaliser la forme intentionnelle, c'est-à-dire la forme que j'ai l'intention de produire, que précisément en luttant contre le cliché qui l'accompagne nécessairement, c'est-à-dire en la brouillant, en la faisant passer par une catastrophe.
On en revient à l'histoire des formes que vous évoquiez tout à l'heure avec Peter Handke.
Ah oui, oui. Et c'est ce que je disais de Maldiné, parce que là, ce texte, il est très très proche de ce que Maldiné a pu écrire, quoi. Mais c'est parce que moi, je m'en rends compte, même quand je travaille, par exemple, ça m'arrive de dire à un acteur, attends, fais attention, parce que cette phrase-là, il y a tellement d'intentionnalité quand tu l'as dit, qu'elle est morte, ou elle devient cliché, quoi. Et je pense que quand on a ça dans la tête, c'est très dur de mettre en scène, parce que les clichés, ils sont partout. Mais c'est là, à mon avis, il faut absolument lutter contre. Et Cézanne disait qu'il créait un chaos irisé, et qu'à partir de là, il commençait à faire 2-3 touches, et tout à coup, il disait, les montagnes rouges surgissent. Mais donc, voilà, il était passé par... Et c'est pareil, Klee, par exemple, quand il en parle, lui, Klee, je crois qu'il n'emploie pas le mot catastrophe, il emploie le mot chaos. Et il dit, il faut d'abord voir gris. Donc c'est d'abord tout gris. Et puis après, ça se compose.
Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le théâtre, de d'abord voir tout gris, Alain Françon ? Quand on part d'un texte comme, je sais pas, celui que vous travaillez en ce moment, « Les beaux jours » de Beckett.
Je pense qu'il faut... il faut trouver une grille de lecture possible pour aborder déjà, seulement pour aborder. Et puis après... Je pense que là, ce qui constitue immédiatement le travail, c'est pas le sens, c'est le rythme. Seulement le rythme, Maldiné disait ça très bien, avec des mots à lui, il disait le rythme, il n'est pas dans le lit du fleuve, il est dans les remous de l'eau. Donc le rythme, c'est une chose qu'on peut parler, mais plus on le cherche, moins on le trouve. Donc il advient. Moi j'ai monté des pièces, par exemple une pièce de Michel Vinaver, Les voisins, où Michel m'avait mis son texte en partition, c'est-à-dire avec son annotation, avec lui des chapeaux pour les intensités, etc., quand c'était fluide, staccato et tout ça. On a fait ça, par exemple, avec les acteurs pendant 15 jours. Et on s'est rendu compte que toutes les questions du sens étaient déjà résolues. Enfin, pas résolues, mais en tout cas abordées largement, quoi. Donc c'est ça le travail. Enfin, c'est, alors évidemment, il vaut mieux savoir ce qu'on dit, évidemment. On peut en parler, je veux dire. On peut dénoter les choses, enfin, je veux dire. Mais après, c'est, par exemple, quand on travaille Marivaux, c'est absolument évident. Dès qu'on est dans l'évidence du rythme, ou d'un rythme, en tout cas, celui qu'on pense être juste. Mais quand on dit juste, qu'est-ce que ça veut dire juste? Ça veut dire que c'est justice. Donc ça veut dire rendre justice au texte.
Ça me fait penser à ce que vous évoquiez tout à l'heure, mais je ne sais plus qui faisait ça, qui écoutait sa pièce de théâtre depuis le sous-sol, là, collée aux canalisations.
Oui, c'est ça, c'est dans le dernier métro.
Dans le dernier métro.
Ouais, ouais.
En fait, c'est comme... Bon, j'imagine que c'est beaucoup trop réducteur, mais ce serait comme mettre en scène à l'oreille, quoi.
Ah oui, mais ça compte énormément. Le metteur en scène Benoît Besson... Benoît, il venait dans les coulisses, et quand le spectacle se jouait, il venait dans les coulisses et écoutait pendant 10 minutes, et il pouvait dire en une seconde...
C'est pas un bonsoir.
Non. Et même Vinavert, par exemple, Vinavert, il a toujours théorisé sur le sonore plus que sur l'image. Et Michel, moi j'ai vu des spectacles avec lui, j'étais obligé de lui faire comme ça, parce que je croyais qu'il dormait, donc je tapais avec le coude, et il fermait les yeux, simplement. Mmh. Et à la fin, je lui disais, écoute Michel... On ne va pas aller les voir parce que tu n'as rien à dire. Elle me dit, mais non, je n'ai pas dormi.
J'ai plein de trucs à dire. On va vers votre dernier choix, et c'est Simone Veil. Vous avez choisi le Journal d'usine. Journal d'usine, c'est un texte de 1951. Elle travaille en usine entre 1934 et 1935 pendant 10 mois. Elle travaille. Elle réfléchit au travail.
Elle est jeune,
elle
a 25 ans.
Ouais. Vous voulez lire avant de dire pourquoi vous l'avez choisi?
Ah oui, oui, oui.
On vous écoute.
L'épuisement finit par me faire oublier les raisons véritables de mon séjour en usine, rend presque invincible pour moi la tentation la plus forte que comporte cette vie, celle de ne plus penser, seul et unique moyen de ne pas en souffrir. C'est seulement le samedi après-midi et le dimanche que me reviennent des souvenirs, des lambeaux d'idées, que je me souviens que je suis aussi un être pensant. Effroi qui me saisit en constatant la dépendance où je me trouve à l'égard des circonstances extérieures. Il suffirait qu'elle me contraigne un jour à un travail sans repos hebdomadaire, ce qui, après tout, est toujours possible, et je deviendrai une bête de somme docile et résignée. Seul le sentiment de la fraternité, l'indignation devant les injustices infligées à autrui, subsiste intact, mais jusqu'à quel point tout cela résisterait-il à la longue? Je ne suis pas loin de conclure que le salut de l'âme d'un ouvrier dépend d'abord de sa constitution physique. Je ne vois pas comment ceux qui ne sont pas costauds peuvent éviter de tomber dans une forme quelconque de désespoir. La révolte est impossible, sauf par éclair. D'abord contre quoi? On est seul avec son travail, on ne pourrait se révolter que contre lui, or travailler avec irritation, cela serait mal travailler, donc crever de faim. On est comme les chevaux qui se blessent eux-mêmes dès qu'ils tirent sur le mort et on se courbe. On perd même conscience de cette situation, on la subit, c'est tout. Tout réveil de la pensée est alors douloureux. Je ne dis pas ça tous les jours, mais de temps en temps, je me replonge là-dedans. C'est comme une manière de... Je ne sais pas comment dire ça, quoi. De ne pas oublier, de se dire que... Non, mais là, moi, j'ai une vie de rêve, hein, je veux dire, c'est pas... Mais ce n'est pas si simple pour tout le monde. Et chaque fois, je me dis, mais c'est inouï, quoi, la chance qu'on a, quoi, d'être dans des salles noires comme ça, en dehors du réel, quoi. Et le réel, c'est tellement trop, quoi.
Vous avez l'impression que vous êtes en dehors du réel dans des salles de théâtre?
Ah ben, quand on répète là, c'est, vous voyez bien comment c'est, le noir et tout ça. On n'est pas dans la rue, on est complètement, c'est un abri.
Oui, c'est un abri, mais ça peut être tout à fait le réel. C'est qu'autant je vous suis sur la condition parfaitement luxueuse.
C'est peut-être l'endroit où on peut décrypter le réel d'une manière incroyable.
Mais on n'est pas en dehors du réel, si ?
Un peu quand même, un peu quand même. Mais en même temps, c'est un endroit où on ne pense qu'au réel, hein, et où on essaye de décrypter, et on essaye de trouver, justement, pas dire ce qu'il faut penser ni ce qu'il faut faire, mais en tout cas, on se pose des questions, bien sûr. Et je sais pas, je veux dire, ça me fait penser... je sais pas, c'est pas que je me sens coupable, mais chaque fois, je me dis, faut pas oublier. Faut pas oublier ça. Que nous, on est un peu dans les étages supérieurs, quoi.
Ça, c'est quelque chose avec quoi il faut dealer pour vous, Alain Françon, dans votre carrière artistique, théâtrale, intellectuelle, la culpabilité. Quand vous dites, c'est pas que je me sens coupable, en même temps, le mot est lâché. que ça veut dire que l'éloignement d'une certaine classe travailleuse, ouvrière, aussi abîmée dans son corps, éprouvée dans son corps, fatiguée dans son corps, par le travail et l'exploitation, le fait d'être à cet endroit-là, il faut être... il faut penser ça?
Non, mais disons par exemple, en ce qui me concerne, c'est un endroit où, au bout d'un moment, il fallait fuir. Enfin, il fallait s'en aller.
Du coup, vous parlez de quoi?
Du milieu dans lequel j'étais, et ce milieu-là, justement. Il fallait le fuir. Et au bout d'un moment, je me suis dit que... Mais non, il ne fallait pas forcément le fuir, il fallait d'abord comprendre une chose, et puis il fallait ne pas s'en couper, en tout cas. J'allais pas y rester, mais et donc, voilà, je suis revenu à des trucs... oui, je suis retourné à certains endroits, très précisément, quoi. Mais je n'y serais pas retourné définitivement, c'est-à-dire que...
C'est pas la même chose.
Comme beaucoup d'entre nous, j'ai aussi été un peu maoïste, et à un moment, il fallait aller s'établir en usine. Et moi, j'ai dit non, ça, je le ferai pas.
Merci beaucoup de nous avoir ouvert votre bibliothèque, Alain Françon.
Merci.
Aujourd'hui, c'était Sébastien Huel, à la réalisation Colin Gruel, au mixage Jean-Guilain Meige. Pour réécouter ce portrait de bibliothèque, rendez-vous sur franceculture.fr à la page du Book Club. C'est aussi sur cette page que vous trouverez la totalité de nos portraits de bibliothèque et les références des textes lus par Alain Françon aujourd'hui. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club.
J'ai déjà vu, déjà vaincu les affres et les monstres de l'adolescence. De les revoir parfois me fait comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai bien fait, je pense, de me souvenir de ça, du temps.